I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Les sagesses ancestrales le disaient déjà, il y a autre chose à la vie que le mesurable, le quantifiable. Elles nous parlent d'invisible et de mystère. Depuis des siècles, nous avons remis notre santé entre les mains d'experts extérieurs à nous-mêmes. La médecine occidentale traque la maladie. Et si être en santé, c'était autre chose que de ne pas être malade? Et si la médecine de la maladie laissait place à la médecine de la vie? Pour revenir à notre capacité d'autorégulation, d'homéostasie et de bien-être, comme le dit si bien mon invité, explorer toutes les couleurs de la médecine pour se reconnecter à sa puissance de guérison. C'est ce qu'elle fait au quotidien puisqu'elle est non seulement docteur en médecine mais aussi coach écoféministe, spécialiste en Ayurveda, fondatrice de l'Institut de Santé Intégrative et de l'école Tribe Empowering School. Ah, j'ai réussi.
Yeah.
Une femme qui tente de faire un pont entre la médecine occidentale et les sagesses anciennes pour nous permettre de renouer avec notre boussole intérieure. Alors comment reprendre en main sa santé, son bien-être? Comment se faire assez confiance pour sentir ce qui est bon pour nous, mais aussi comment penser les blessures du passé pour une guérison puissante de l'humain et de la planète. C'est tout cela que nous allons voir aujourd'hui avec mon invité, que vous connaissez déjà bien et qui revient dans Métamorphose pour la 3e fois, je crois. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Nathalie Guita Babourage. Bienvenue dans Métamorphose.
Bonjour Anne, merci pour ton invitation.
Avec grande joie. Alors, celles et ceux qui ont envie de réécouter les podcasts précédents, on a fait un podcast sur la détox colorée.
Oui.
Et puis on avait fait une pratique plus liée à un défi, hein, je crois aussi.
Sur les mantras.
Sur les mantras, voilà, à l'occasion de la sortie de ton oracle.
Exact. C'est ça,
ouais. Alors dans ton tout nouveau livre, hein, tu es prolifique, qui vient de paraître chez Erol, préfacé par Odile Chabriac, et qui s'appelle « Sa propre médecine ». Quelle était en fait ton intention? C'est à la fois un manifeste pour une médecine intégrative et un livre aussi pratique avec des conseils. Et, à travers ça, on voyage aussi avec ta propre expérience.
L'intention de devenir sa propre médecine, je pense que c'est, après les 2 années qu'on vient de traverser, la médecin en moi, la femme en moi, qui aime explorer justement, qui aime faire des ponts entre la science, la spiritualité, la conscience... la femme en moi s'est posé beaucoup de questions sur où est-ce qu'on allait en tant que collectif humain et pourquoi on allait à contresens finalement par rapport au vivant. Et ce livre, il est venu d'un espace de comment vibrer cette reconnexion, cette boussole intérieure. Et moi, c'était vraiment le message que j'avais envie de partager à travers le partage de mon cheminement en tant que femme dans ce monde j'ai envie de dire, qui nous plonge complètement dans le chaos. Et mon message, c'est de nous rappeler qu'en fait, on a tout en nous, de nous rappeler ce que nos ancêtres savaient déjà, il y a plus de 5000 ans. Ce que la science, aujourd'hui, quand on prend la physique quantique, les neurosciences, on se rend compte qu'on arrive à la même conclusion que, finalement, on ne connaît pas plus de 99,99% du vivant. Donc, ayons l'humilité de nous ouvrir à tout ce qui existe pour essayer de mieux comprendre ce vivant en nous et à l'extérieur de nous.
Oui, un livre un peu comme un cri aussi, quelque part. Est-ce que tu peux nous redire en quelques mots, ou un peu plus, ce que c'est que la santé intégrative ? Est-ce qu'elle peut nous apporter ? C'est vrai qu'on en a parlé déjà dans un podcast précédent, donc je vous invite à réécouter si vous avez envie, mais on va quand même le redéfinir, la redéfinir.
Alors, il y a une quinzaine d'années, quand je me suis lancée dans cette exploration justement de comment intégrer dans la médecine occidentale les sagesses ancestrales, la définition dans les organismes, notamment américains, puisque ça a été un peu les États-Unis qui ont été pionniers dans cette approche, c'est comment allier le meilleur de la médecine occidentale avec le meilleur des sagesses anciennes. Comment allier la technologie avec des concepts plus spirituels, plus énergétiques. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que pour moi, la santé intégrative, ça va au-delà de ça. C'est comment intégrer les opposés. Comment intégrer en soi sa part cartésienne et sa part intuitive. Comment intégrer son système nerveux moteur, analytique, qui a été bien développé avec ces 5 derniers siècles de notre société occidentale. Mais comment aussi investir, explorer notre système nerveux sensoriel, sensitif.
Quand tu dis opposé, ça peut être aussi complémentaire, quelque part.
Exactement. En fait, tout ce qui m'anime aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à développer ce muscle de l'intégratif.
C'est ça, le muscle de l'intégratif. Toi, Nathalie, tu es née en France de parents indiens et à l'âge de 10 ans, tu pars vivre en Inde pour finalement revenir en France faire tes études de médecine. Est-ce que le fait d'être de deux cultures vraiment assez différentes, c'est ça aussi qui t'a permis de faire ces ponts entre ces différents, tout ce que tu viens d'évoquer là ?
Clairement, je pense que c'est vraiment le terreau dans lequel j'ai évolué, entre mon pays de naissance, la France, qui, on va dire, c'est quand même le pays de Descartes, et l'Inde, pour moi, c'est vraiment, si vous êtes déjà allé en Inde, vous saurez de quoi je parle, c'est vraiment le pays du chaos. En quelques secondes, on peut passer d'un état d'extase, d'admiration.
Et des couleurs.
Des couleurs, des odeurs, à l'opposé en quelques secondes, en fait. Donc, ça demande une forme de... C'est un entraînement, je pense, que j'ai eu depuis toute petite.
Oui.
Mes parents sont très opposés aussi. Mon père est militaire, ma mère est prof de yoga. Donc, je pense que ça aussi, ça a aidé.
Ah oui, en effet, là aussi, ils font des ponts.
Et puis là, j'ai continué à faire des ponts, puisque la suite de l'histoire, c'est comme je raconte dans le livre. Aujourd'hui, je vis entre la Guadeloupe et le Portugal.
Oui. Donc, tu continues ces ponts.
Je crois que c'est dans mon dharma de créer des ponts.
C'est ça. Alors, dans ton livre, et puis c'est aussi en couverture, tu parles des termes de femme médecine, d'homme médecine, qui nous font tout de suite penser aussi à la sagesse et au référent de la sagesse amérindienne. À quoi ça fait référence pour toi, ces termes ?
Je ne sais pas si je te rappelle il y a quelques années, quand on s'était rencontrés et que je t'avais proposé l'idée d'un livre, et tu m'avais parlé de femme médecin, femme médecine. Sur le moment, je me suis dit non, c'est pas moi ça. Je me sens pas femme médecine. J'ai l'impression que c'est trop à porter. Mais t'as planté une graine à ce moment-là, ça a cheminé. Et encore une fois, ces deux dernières années m'ont permis d'être un peu. De catalyser des choses qui étaient prêtes à émerger. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, quand j'utilise le mot femme médecine ou homme médecine, c'est cette capacité à nous connecter à cette vibration unique que chacun, chacune de nous avons. Et quand on reprend les sagesses ancestrales, on se rend compte que chaque âme est venue s'incarner sur cette terre pour vibrer sa note unique. Et que tant qu'on laisse les couches de notre mental, de nos pensées, de tout ce qui nous empêche en fait de nous connecter à cette source, ça nous désaligne. Et quelque part, en fait, c'est ça qui a fait sens pour moi et que j'ai eu envie d'ouvrir cet espace-là déjà pour moi. Et en partageant mon histoire, j'espère que ça va vibrer pour les personnes qui sont dans ces mêmes recherches, dans ces mêmes questionnements.
Oui, parce que c'est vrai que dans ton livre et même dans tout ce que tu fais, tu invites chacune et chacun de nous à s'éveiller à cette vibration de la femme et de l'homme médecine qui sommeille en nous, en fait, parce qu'elle est là, présente.
Exactement. Et puis c'est dans tout le cheminement du livre, j'en parle, c'est pour se connecter à cette puissance, cette flamme qui est en nous, on a besoin de nous réapproprier. Parce que tout est déjà là, quelque part. Et ça demande un effort, du coup, d'aller visiter ce qui nous empêche de nous réapproprier cette puissance. Et j'en parle sous forme des dragons dans le livre.
Oui, on va y venir, évidemment. Tu dis aussi quelque chose d'intéressant, que finalement, tu dis oui, je suis médecin, mais vous aurez compris à présent que personne d'autre que vous ne vous connaît mieux que vous. Que ce... Tu parles de soi-même. Mmh. Et c'est vrai qu'à la fois, nous sommes un mystère pour nous-mêmes, comme les autres sont un mystère pour nous. Et en même temps, effectivement, on est à une bonne posture pour mieux se connaître que les autres.
Oui, mais je trouvais important de le préciser, parce que souvent, dans mes conférences ou dans mes formations, on vient me dire, oui, mais toi, c'est normal que tu sais, t'es médecin. Mmh. Mais moi, comment je peux savoir? J'ai pas eu de cours d'anatomie, j'ai pas eu de cours de médecine. Et c'est vrai que j'ai appris énormément de choses durant mes études de médecine. Mais en fait, j'ai réalisé... Je le dis d'ailleurs, j'ai réalisé que j'ai un corps de femme et que j'aimais ce corps de femme. C'est pas pendant mes études de médecine, c'est pas pendant mes années de médecin. C'est beaucoup plus tard, lors de crises, de burn-out, de grands questionnements métaphysiques, que j'ai compris qu'il fallait que je me reconnecte depuis un autre espace.
Mmh, c'est ça. Et tu parles beaucoup aussi, j'aime bien ce terme, de décoloniser en fait nos croyances, hein, oui. Notamment donc tu invites vraiment chacune et chacun dans cette médecine intérieure à faire ce travail introspectif de décolonisation, notamment du patriarcat intérieur, mais pas que, hein, il y a beaucoup de choses à décoloniser. Et tu cites cette chercheuse en psychologie qui dit « nous ne pouvons pas accoucher d'un nouveau monde dans un esprit colonisé ». C'est très puissant quand même. Hein.
Oui, ça a été une partie dans le livre des dragons collectifs qui a été intense pour moi. Je me rappelle que je t'avais écrit un mail à ce moment-là, à toi et Joanne, parce que c'était, c'était pas évident. Mais en même temps, les mots que j'utilise et que la personne que je cite ou d'autres personnes que je cite aussi pendant ce passage-là, ils ont leur importance, je pense.
Oui.
Le fait d'avoir vécu, de vivre depuis 5 ans en Guadeloupe, une terre qui a connu la colonialisation, l'esclavage... Je me rends compte que ce qu'on a traversé ces 2 dernières années, il y a des schémas karmiques qui se répètent de l'ordre de la manière dont on nous a présenté ce qu'on a traversé, cette crise, et les solutions qui sont proposées, le fait de monopoliser uniquement sur une manière de prendre soin de notre santé, ça a réveillé ces mémoires en fait.
Mmh.
Et je pense qu'on a vraiment besoin d'aller revisiter le contexte historique dans lequel la médecine occidentale a émergé. Et je précise encore une fois, que je ne rejette pas du tout cette médecine, puisque c'est ma formation d'origine et que, clairement, elle a tous ses bénéfices qu'on lui connaît.
Tu ne les opposes pas?
Non. Mais ce que je constate, ce que plusieurs historiens aussi constatent, c'est que comme elle est née dans un système patriarcal, capitaliste, colonialiste, il y a des tendances à ce qu'elle prenne une posture au-dessus de toutes les autres sagesses ancestrales. Et il y a une vigilance à développer. Et pour moi, je pense que ça va venir de chacun et chacune d'entre nous. De mettre en lumière déjà en nous les structures intérieures qui nous oppriment et qui nous empêchent de nous connecter à cette sagesse en nous. Que ce soit notre corps, nos émotions, tout ce qui n'est pas valorisé, on va dire, dans la médecine occidentale, ou qui est mis de côté, ou qui est très médicalisé, où on a perdu le pouvoir, en fait.
C'est ça. D'ailleurs, tu le dis aussi, toi, dans ce livre, que tu as fait ce travail de déconstruction. Tu as revisité aussi ton cursus de médecine avec ce prisme-là. Notamment quand tu dis parfois, on prenait aussi souvent soit pour l'infirmière, soit pour la patiente, mais pas forcément pour la médecin.
Oui, tout à fait.
Comment tu l'as intégré en le vivant?
J'ai envie de dire, c'est un work in progress. Hein. Je continue à cheminer mais ce qui m'a beaucoup aidée, en fait, c'est déjà d'observer dans mon histoire tous les moments où j'ai donné le pouvoir à l'autre. Et d'y mettre de l'attention et de l'amour, en fait, à ces parties de moi qui ont été blessées. Parce que les premières réactions que j'avais eues, c'était de culpabiliser.
Oui, je suis une femme.
Voilà, de couleur, dans un milieu d'hommes blancs, beaucoup, au milieu hospitalier universitaire. Et c'est d'y aller vraiment, j'ai envie de dire, c'est de la chirurgie très fine.
La dentelle.
Ouais.
Un travail de dentelle.
Et d'y aller avec vraiment beaucoup d'amour et d'humilité. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te rends compte que finalement, ça fait partie d'un processus évolutif et que ça s'arrête jamais. Et tant mieux, quelque part. Parce que c'est ça qui nous ramène à cette source, à cette essence profonde, et que ça nous reconnecte à elle d'une manière très fraîche et renouvelée à chaque fois.
C'est ça. Alors toi, dans ton travail, hein, tu parles des différents corps que tu as vraiment découverts à ce moment-là, d'autres types de corps, je dirais, qu'on n'étudie pas forcément en médecine. Les koshas et leur intégration a changé ta vie. Est-ce que tu as envie de nous partager leur fonctionnement ?
Oui, avec plaisir. Je pense que les yogis et les yoginis qui nous écoutent, ça leur parlera.
Pour certains, ça paraîtra perché, alors que en fait, ça prend racine en fait dans des millénaires de traditions.
Et encore une fois, les neurosciences confirment aussi cette vision multidimensionnelle de l'être humain. C'est vrai que dans notre société occidentale, on a le corps physique d'un côté et l'esprit de l'autre, les pensées de l'autre. Et ce que j'aime beaucoup dans cette vision multidimensionnelle, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus que ça. Déjà, on est la nature. En fait, on n'est pas, il n'y a pas la nature à côté de nous. Et on n'a pas à la sauver quelque part, puisqu'on fait partie de
nous
cette nature.
Nous sommes la nature.
Oui. Et donc ça, c'est l'environnement. On va dire que c'est notre premier corps, déjà. Et là encore, en fait, pour moi, ça n'a rien de perché, parce que quand tu respires, l'oxygène que tu respires, il vient des arbres, et tu rejettes le CO2 aux arbres. Ensuite, on a notre corps physique. C'est celui que la médecine occidentale a disséqué, mis dans les scanners, dans le microscope, et qu'on connaît bien, très bien même, et qu'on peut souvent diagnostiquer et traiter.
Oui.
Mais ce n'est que les fameux 0,01% du vivant, quand on prend la lecture quantique. Ça veut dire qu'on est autre chose que ça en plus. Et c'est là où ça devient intéressant, on est aussi un corps énergétique, qu'on ne voit pas, mais il existe. Et dans ce corps énergétique, on a nos émotions, qui font qu'on est en vie. C'est là où, finalement, on pourrait parler de prana, dans les sagesses indiennes, de chi, dans les sagesses chinoises, de souffle de vie.
Oui, c'est l'énergie de vie.
Exactement.
L'orgone aussi, disait William Reich, je crois.
Mais en fait, tout le monde le disait quelque part, j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, si on veut une lecture plus scientifique, c'est notre système nerveux sensoriel et sensitif. Tout ce qui fait que je ressens les choses, bah, c'est que je suis dans ce corps énergétique. Ensuite, on a notre corps mental, donc on connaît bien aussi. Et là, si on devait illustrer la taille du corps mental d'un être humain, en fait, c'est énorme, puisqu'on sait statistiquement qu'on aurait à peu près 80 000 pensées par jour. 90% en plus, c'est les mêmes que la veille. Donc, ça travaille bien ce corps mental.
Oui, ça tourne un peu en boucle d'ailleurs.
Ouais. Mais en même temps, il est fait pour ça, le mental. Il est fait pour émettre des hypothèses. Et en fait, l'idée, encore une fois, c'est pas de diaboliser ce corps mental, c'est de dire, ok, il existe, mais je ne suis pas que ça. Du coup, si j'apprends à l'observer et à naturellement l'apaiser à travers différentes pratiques, dont la méditation, ça va me donner accès à un autre corps qui est le corps expérimental. Et celui-là, je l'adore. Les enfants ont un accès très facile à ce corps. Si vous avez déjà suivi une séance de sophrologie ou d'hypnose avec un enfant, vous voyez qu'il rentre très vite, en fait, dans l'exploration imaginaire, sensorielle. Pourquoi ? Parce que son corps mental, il est encore spongieux, on va dire. Donc, il laisse passer les informations.
Il n'a pas trop de filtres, quoi.
Voilà, exactement. Il n'a pas encore les conditionnements du mental qui veut s'adapter à la société, à l'école. Et c'est, j'ai envie de dire, beaucoup de choses se passent dans ce corps expérimental parce que c'est notre corps de ressources. C'est notre capacité à imaginer, à rêver, quand on enlève nos conditionnements, justement.
C'est notre capacité à nous relier aussi à plus grand que nous-mêmes.
Exactement, à nous relier à plus grand que nous-mêmes, à donner du sens à ce qui nous arrive, qui est aussi une capacité de l'être humain qui est essentielle quand on traverse des moments chaotiques comme celui-là. Les personnes qui ont cette capacité à donner du sens à ce qui leur arrive, j'appelle ça la médecine de Ganesh dans le livre. De dire, ok, derrière cette souffrance, c'est quoi l'opportunité ? Comment est-ce que je peux la traverser en voyant le cadeau derrière ? Ça, on se rend compte que même chez les personnes qui ont des maladies graves, comme un cancer, qui ont cette capacité à se dire « je vais donner du sens à ce qui m'arrive », on voit que leur taux de résilience et de rémission est beaucoup plus grand que les personnes qui se coupent de cette capacité à donner du sens.
On pense évidemment au psychiatre Viktor Frankl, qui a beaucoup écrit sur effectivement ce sens, donner du sens à sa vie, donner un sens à sa vie.
Exactement.
Que ceux qui s'en sortaient, c'est ceux qui avaient peut-être un projet après, alors lui il parlait des camps de concentration, mais qui gardait quand même l'espérance de retrouver un proche, de monter quelque chose, de la vie d'après.
Exactement. Ouais. Et enfin on arrive à notre âme. Et là, il y a encore quelques années, je pense que j'aurais pas osé utiliser le mot âme en fonction de mon public.
Oui.
Parce que j'avais peur, encore une fois, que ce soit perché.
Aujourd'hui, et en pour tant moi, que médecin, encore moins, j'imagine.
Exactement. Mais aujourd'hui, c'est une évidence, en fait. Je pense qu'on peut plus faire le bypass. Oui. Qu'on est des êtres spirituels incarnés, comme des êtres humains, pour vivre l'expérience humaine. Mais si on enlève cette étincelle, pour moi, la vie n'a plus aucun sens.
Quand tu as découvert tout ça, tu dis que tu réalises que tu n'es pas une tête pensante montée sur un corps mécanique. Je suis bien plus que cela. Je me souviens de cette joie qui pétille dans mes cellules. Car je découvre que nous sommes faits de plusieurs corps ou enveloppes. Ça te fait toujours ça, cette joie vraiment d'avoir découvert tout ça?
Oui, bah, en t'écoutant lire, ouais, ça me remet dans ce pétillement. Ouais.
Parfait. C'est bien quand on se fait citer comme ça. Alors, comment est-ce qu'on relie ces différents corps? Est-ce que c'est possible justement à l'aide de ces fameux chakras? Qu'est-ce que c'est?
Les chakras, j'ai envie de dire, ce seraient les ponts, justement, oui, entre les différents corps. Et donc, ces centres énergétiques qui jouent un rôle de pont, pour moi, c'est aussi des centres vibratoires, pour revenir à la notion de médecine des fréquences et des vibrations. Et on a cette capacité à ressentir ces vibrations, encore une fois. Comme on s'est coupé, pour la plupart d'entre nous, de nos corps, les premières fois, c'est sûr que ça peut être un peu perturbant, ça peut être mental. Mais encore une fois, si vous avez déjà fait une pratique de yoga ou une marche consciente ou une méditation en pleine conscience, peu importe, cet état de présence et d'alignement, vous l'avez sûrement déjà vécu. Et en fait, les chakras nous permettent de sentir ces points de connexion où tous les corps s'alignent. Et moi, je trouve ça en fait vraiment passionnant et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse amener dans les écoles, par exemple, pour que les enfants qui ont encore cette mémoire fraîche puissent simplement se rappeler.
Tu disais qu'aujourd'hui, les neurosciences montraient certains fonctionnements comme ceux-là, par exemple?
Oui. Ouais. Et ben, pendant 20 ans, quand je me suis plongée dans la santé intégrative, j'ai beaucoup fait de recherches, justement, pour essayer de comprendre et de rendre cette approche mainstream. Et il y a énormément de recherches qui existe sur ce sujet-là, et notamment, il y en a une de 2010, je crois, où des psychoneuro-endocrinologues, c'est déjà une discipline intégrative, s'intéressent à comment répond le corps physique quand une personne vit une émotion. Une émotion comme la colère, la tristesse, la peur, et c'est drôle parce que ça correspond vraiment au centre des chakras, en fait.
Ah, ils ont montré ça?
Ouais.
Ouais, que ça correspondait.
Par exemple, la peur. Quelqu'un qui ressent une énergie peur parce qu'elle voit une image ou une vidéo, ça vient activer son chakra racine, le premier chakra à la base de la colonne vertébrale. Et le premier chakra correspond à nourrir ses besoins de base. Et quand il n'est pas nourri, il y a l'émotion peur qui survient.
Est-ce que c'est important pour toi, justement, avec ton esprit rationnel, puisque tu en parlais tout à l'heure, l'intuition et le côté rationnel, de nourrir ça quand même par des études pour peut-être aussi rassurer ou montrer des choses?
Oui, comme je t'ai dit, je l'ai fait pendant 20 ans.
Oui.
Depuis 2 ans, la vie, j'ai l'impression qu'elle m'envoie des signaux. Elle me dit, c'est bon, t'as assez fait de ce côté-là. Maintenant, pratique. Vibre et transmet. Et puis les personnes qui ont envie d'avoir encore plus d'informations, elles peuvent. J'ai des sources, je peux les orienter. Il y a des personnes qui sont dans cette recherche de compréhension qui vont mieux les orienter.
Oui.
J'ai l'impression que justement, le fait de m'autoriser à rentrer dans cette énergie de la femme médecine m'invite à lâcher un peu cette partie-là pour expérimenter dans mes cellules.
Même si tu comprends que ça peut être important, évidemment, pour le monde,
bien sûr,
puisque tu l'as fait. Toi, tu as été formée notamment dans des grands centres internationaux qui font des recherches sur le sujet.
Exactement, oui. Dans différents centres aux États-Unis. J'ai passé par Deepak Chopra aussi, et en Inde aussi. Et je pense que ça fait partie d'un cheminement, en fait. Il y a un moment où on a besoin de comprendre, et c'est normal. Et puis, il y a des moments où on a besoin d'être dans l'expérience pure.
C'est ça. Alors, on a tendance à être déconnecté de notre corps. Je lisais ta phrase tout à l'heure sur une tête pensante, sur un corps mécanique. Comment se relier à nouveau à notre ressenti corporel et à nos 4 formes d'intelligence? J'aimerais bien que tu nous les partages. Il y en a qu'on voit spontanément et puis d'autres peut-être un peu moins. Parce qu'on peut savoir qu'on est déconnecté de notre corps, mais ne pas savoir comment se reconnecter à notre corps.
Pour moi, il y a 2 pistes qu'on peut enclencher à peu près au même moment, en fait. Il y a déjà de revisiter son histoire et de voir à quel moment on s'est coupé de notre corps, dans notre histoire. Est-ce qu'il y a eu des événements traumatisants Est-ce qu'il y a eu un besoin de survie, entre guillemets, qui a fait qu'on s'est anesthésié? Et en parallèle, ce qui est beau dans toutes les pratiques psychocorporelles, yoga, danse, qigong, tai chi, c'est que justement, on apprend à restimuler notre système nerveux sensoriel, mais à partir d'un espace apaisé, où le mental est apaisé. C'est comme si on reconnectait nos circuits nerveux à partir d'un endroit soit neutre, soit même parfois dans une énergie de joie, de connexion, de reliance, en fonction des thématiques que le professeur choisit. Mmh. Et de rééduquer son système nerveux à travers ses pratiques, tout en allant chercher dans son histoire ce qui nous a bloqué et de prendre le temps de les accueillir, encore une fois. Pas dans l'énergie de culpabilité, mais dans l'énergie de « ok, ça fait partie de mon histoire ». Et de se dire comment je peux transformer ça, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a permis de développer aussi peut-être comme talent, comme compétence, et d'ouvrir cette énergie de guérison. Je pense que les deux ensemble, ça permet justement de petit à petit reconnecter à son corps à partir d'un espace sécure, j'ai envie de dire même jouissif.
Oui.
Quelque part, notre corps, c'est aussi...
C'est une réappropriation d'une forme de souveraineté, quelque part.
Exactement, oui.
Il faut être bien accompagné pour faire ça, parce que ça peut aussi ouvrir une forme de boîte de Pandore émotionnelle.
Je pense que c'est... Oui, que c'est là où ça nous reconnecte à notre part mammifère. C'est que bien sûr, on a besoin d'un travail d'introspection. Il y a besoin de moments de solitude pour se reconnecter à tous ces trésors, en fait, qui étaient enfouis. Mais à côté... d'avoir un espace pour pouvoir le vivre avec une autre personne, peut-être un thérapeute ou un coach, ou bien un groupe, un cercle, d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres hommes qui vivent cette réappropriation, c'est encore plus puissant. Ça va activer l'intelligence émotionnelle, justement, et nos neurones miroirs, et l'intelligence du cœur. Donc ça va augmenter, ça va amplifier ce phénomène vibratoire de guérison, de reliance, de reconnexion.
Voilà, avec toujours ce petit warning de bien choisir cet endroit sécure, cette personne, voilà, ce référent. Très important. Alors, tu cites aussi sur les formes d'intelligence. Tu as envie de revenir un peu là-dessus?
Oui, parce que j'en parle justement pour les personnes comme moi qui sont cartésiennes, mais qui se sentent appelées dans cette ouverture des énergies de la spiritualité, c'est de se rappeler que l'intelligence, elle a été monopolisée avec notre patriarcat, par rapport à l'intelligence mentale ou analytique. Mais on le sait aujourd'hui qu'on n'est pas... que l'intelligence, c'est pas que cette forme-là. On a l'intelligence émotionnelle, qui n'a pas été valorisée, mais qui a toute sa place. Il y a l'intelligence intuitive. Donc toutes ces autres formes d'intelligence, c'est important de se les réapproprier et d'oser les partager, d'oser les mettre en valeur, d'oser les mettre en avant. Et quelque part, ça réintègre toutes les parties de notre système nerveux.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on est dans une société qui est très branchée sur le QI, alors que finalement, on voit bien, même dans le vivant, que l'intelligence est partout.
Exactement, oui.
Elle est multiforme. Il y a une biodiversité, justement, on parle de biodiversité. Il faut qu'on milite pour une biodiversité des intelligences et non pas une seule forme.
Une permaculture des intelligences.
Ouais, c'est ça, une permaculture des intelligences. Alors, tu cites aussi dans les citations la cueilleuse sauvage qui dit « Nous sommes chacune des médecines pour la Terre quand nous accomplissons nos rêves et suivons notre voie. La difficulté pour beaucoup, bon nombre, c'est de discerner quelle est cette voie. » Parce que parfois, ça peut être un peu comme une forme d'injonction qui dirait « Il faut que tu trouves ta mission de vie. » Puis il y en a là qui sont là « Bah moi, j'en sais rien. Tel l'a trouvé. » Puis alors les réseaux sociaux, ça n'aide pas forcément pour ça. Et donc, voilà, comment faire? Est-ce que tu peux nous aider?
Déjà, c'est peut-être changer le verbe. On n'a pas à trouver sa mission de vie, je pense. Hein. C'est vraiment...
Et puis, encore faut-il qu'il y en ait même une.
C'est ça. Et j'ai envie de dire, quand on se met, quand on se connecte aux Védas, par exemple, qui sont ces textes sacrés qui viennent de l'Inde ancienne, la mission de vie, c'est une vibration, c'est être sa mission de vie, plutôt que de trouver ou faire sa mission de vie. Et là, j'ai envie de dire, parce que j'ai déjà eu cette question plusieurs fois de mamans qui avaient décidé d'arrêter leur travail pour être au service de leurs enfants, prendre soin d'eux, qui me disaient, mais moi... moi, j'ai pas de mission de vie, je sers pas des grandes causes. Mais déjà, d'avoir choisi en conscience de prendre soin de sa famille, d'élever des futurs adultes alignés, connectés, responsables, c'est énorme, en fait. Et j'ai envie de dire, être, déjà, c'est une mission de vie, quelque part.
Ouais. Vivre.
Vivre. Je pense à Christiane Singer, en te répondant à cette question. En fait, elle le dit très joliment, c'est peut-être que entre ce point où on décide de s'incarner, on est, et ce point où on meurt, il se passe tellement de choses que peut-être simplement le moment où on va partir de ce corps, c'est de partir le plus libre possible sans laisser d'énergie ou d'émotions non digérées à la Terre, en fait.
Alors, tu t'es formée, tu disais tout à l'heure, notamment auprès d'Deepak Chopra, et tu as appris à naviguer, notamment avec lui, entre des états de conscience. Qu'est-ce que c'est? Comment ça peut nous aider?
Ben, dès qu'on s'ouvre à tous ces corps et toutes ces dimensions, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas juste un état de conscience. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai réalisé ça, moi, pour moi, état de conscience, ma référence était le score de Glasgow en médecine, aux urgences. Quand quelqu'un arrive dans le coma, en fait, on fait son test pour voir s'il a un état de conscience, on va dire on ou off, en gros. Donc moi, j'étais partie. Enfin, pour moi, c'était ça, les états de conscience. Et quand j'ai commencé à explorer justement l'Ayurveda, la spiritualité et les états modifiés de conscience, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus vaste que ça. C'est pas juste un bouton on-off. Au milieu, il y a plein de couleurs, justement, de ces états de conscience. Et en médecine, en fait, on se focalise sur l'état de conscience, on va dire, de stress, qui est canalisé par le mental. Mais tout ce qu'il y a autour, en fait, quand on se connecte aux autres corps, moi, je ne l'ai pas appris en médecine. C'est dans ma formation d'hypnose, et puis après dans d'autres techniques de gestion du stress, et après je l'ai retrouvé en Ayurveda aussi avec Deepak Chopra, où je me suis dit, mais en fait, on peut aller jouer, explorer ces différents états de conscience modifiés, sans forcément prendre de médicaments ou de substances, simplement par des techniques respiratoires, par une présence au corps particulière, et ça, pour moi, ça dilate, ça ouvre, notamment le corps expérimental, ce fameux corps de ressources. Et ça nous permet d'utiliser, d'aller explorer les 90% à peu près de cerveau qu'on n'utilise pas. Et j'ai envie de dire d'autres intelligences aussi, peut-être, qu'on ne sait pas encore nommer, mais qui, je pense, existent.
C'est ça. En t'écoutant, c'est vrai que ces états modifiés de conscience, qu'on pourrait aussi appeler des formes de transe, quelles qu'elles soient, finalement, on peut les vivre aussi tous les jours, à travers peut-être le deuil de quelqu'un de proche. C'est une forme de transe, c'est un état de conscience modifié, ça nous met dans un autre état, etc. Tout ce qui, finalement, le rire est une transe,
un
état modifié de conscience, etc. Enfin, beaucoup de, finalement, on ne les repère pas forcément, mais ils sont là.
Exactement. En fait, dès que tu commences à comprendre, à sentir que on est dans une forme de conscience automatique, quand on fait nos tâches régulières sans nous poser, et que du coup, dès que tu apprends à simplement, en te reconnectant à ta respiration, sans rien faire, juste, je me connecte à ma respiration, je me connecte à ma tasse de thé, à l'odeur. Déjà là, il se passe quelque chose où ça s'ouvre, ça se dilate. Et plus tu vas t'entraîner à faire ça, plus tu vas passer du mode automatique en mode conscience, présence, et dilatation, j'ai envie de dire. Après, dans le livre, je parle des 7 états modifiés de conscience.
Oui.
Pour moi, c'est des... Je fais le mouvement avec les mains, mais c'est des... c'est des dilatations, des expansions de conscience et des contractions. Et c'est un mouvement naturel, j'ai envie de dire. Donc, ça aussi, c'est accessible. C'est en nous.
Les mains qu'elle a très belles et très gracieuses, de danseuse aussi, notre corde à son arc. C'est vrai que... Toi, pour toi, c'est un astrophysicien qui t'ouvre la voie, tu as un déclic à ce moment-là, celui de comprendre que l'univers co-créé avec nous. C'est à une conférence, tu as une espèce de prise de conscience comme ça, énorme.
C'était à Paris d'ailleurs. Je pense que Paris, j'ai une connexion particulière à cette ville où il y a des trucs qui s'alignent. Et oui, donc c'est Trinh Chuan Chuan, cet astrophysicien bouddhiste, qui à un moment donné parle du « hard problem » chez les scientifiques. On va dire le problème insolvable, où il dit... que tu as les scientifiques qui pensent que l'univers est une réalité purement mécanique et que, comme par hasard, dans un univers, il y a la concentration idéale pour que la vie sur Terre apparaisse. Et puis, tu as les scientifiques qui pensent au contraire que non, il y a un univers intelligent qui a fait en sorte que la vie sur Terre apparaisse et que peut-être il y a d'autres vies, d'autres formes de vie ailleurs, mais en tout cas, dans ce qui se passe sur la Terre, on a cette relation intime avec l'univers. Et ce qu'il dit, c'est qu'à ce stade, que ce soit la théorie A ou la théorie B, on n'a pas de preuves scientifiques. Même les scientifiques ne peuvent pas le prouver scientifiquement. Et du coup, ceux qui choisissent d'adhérer à la théorie A, leur vie devient une horloge mécanique, le fruit du hasard. Et quelque part, ils sont un peu victimes de ce qui se passe.
Oui, ballottés comme ça, par le hasard.
Et puis, ceux de la théorie B, bah, eux, ils sont en puissance, en fait, quelque part. Ils co-créent avec l'univers. Et leur vie est complètement différente de ceux de la théorie A. Et moi, je me suis dit, mais oui, en fait. Finalement, à force de chercher des preuves scientifiques, je me suis moi-même bloquée pendant longtemps. Et d'avoir entendu ça, ça m'a autorisée à me dire, bah, peut-être que c'est à moi d'écrire mon histoire avec un grand H. Peut-être qu'on a cette capacité-là en tant qu'être humain. Donc, qu'est-ce qui m'en empêche?
Et c'est à ce moment-là que vraiment, il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement en toi?
Ouais.
Tu parlais, excuse-moi, des sept consciences tout à l'heure. Tu voulais peut-être les passer en revue très rapidement, au moins les nommer ou pas forcément?
On peut, oui, pour donner un peu le...
Voilà, ou quelques-unes, celles qui, comme ça, que tu as envie de nommer.
Ben, il y a la... On va dire, je parlais de l'état de stress de base, la conscience automatique, en fait. La réponse réactive, c'est physiologiquement, on sait qu'on a des glandes, les surrénales, qui sont là pour assurer notre survie.
Ouais, notre système de défense, quoi.
Exactement. Et heureusement qu'elles sont là. Mais c'est juste que si on n'apprend pas à développer notre capacité à élargir notre conscience, on va rester bloqué dans ce système de survie. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on apprend à accueillir et calmer ce mental, notre système physiologique, notre neurologie, va pouvoir se brancher à d'autres manières de fonctionner et à nous connecter à une conscience, une réponse plus créative, par exemple. Face à une situation ou un problème, soit on va réagir, attaquer ou fuir. Par contre, si on apprend à dompter ce système autonome de survie, ça va nous ouvrir à des réponses créatives auxquelles on n'aurait pas pensé.
C'est ça. Un autre que tu as envie de partager?
L'état de conscience universel.
Ouais.
La connexion directe à l'univers, en fait, au grand tout. On peut le nommer comme...
Ou l'amour universel.
L'amour universel, la source. Ouais. C'est ces moments où c'est tellement dilaté qu'on fait partie du grand tout et qu'il n'y a même plus de question de moi, je, toi, tu, c'est nous, en fait. Nous ne faisons plus qu'un. Donc c'est aussi un état de conscience, je pense, qui est essentiel de ramener sur Terre.
On pense aussi à la noosphère de Pierre Teilhard de Chardin quand tu dis ça. Alors, dans cette époque aussi, hein, qui nous pousse à aller quand même, on est un peu asynchrone avec les machines, toujours plus vite, toujours plus loin. Toi, tu nous invites à re-questionner notre rapport au temps.
Ben oui, parce que on parlait des corps tout à l'heure. J'ai rajouté, en fait, dans ma description des différentes dimensions qui nous constituent, le corps numérique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que là, j'ai mon portable juste devant moi. Toi aussi, d'ailleurs.
Pareil, hein, on est tout pareil. Je pense que s'il y avait d'autres personnes dans la pièce, ça aurait fait pareil.
Exactement. C'est devenu un prolongement de nous-mêmes, en fait. Le téléphone, les réseaux sociaux. Donc, plutôt que de les opposer, je me dis, ça fait partie de nous. Et ce corps numérique a aussi une temporalité de l'instantané. Seulement, si on lui laisse toute la place et que sa place à lui, en fait, on vivrait à 200 à l'heure tout le temps. Et notre physiologie nous rappelle qu'on ne peut pas être toujours dans l'action, dans l'analyse, dans toujours le faire. Et ça nous demande du coup un effort de revenir aux autres temporalités qui ont été décrites par les Grecs, par les sagesses ancestrales, parce que tous nos corps ont des temporalités différentes. Comme le temps des cycles, des saisons,
Aïon.
On est traversé par des cycles, des saisons dans nos cellules. Le temps de l'âme, le kéros, le temps des synchronicités. En fait, on a aussi besoin d'avoir des temps de régénération pour nous connecter à cette temporalité-là. On a le chronos, qui est le temps créé par l'être humain. Et je parle du numéros dans le livre, c'est ce fameux temps instantané qui, à la fois, passe par l'outil technologique, par Internet. Mais j'ai aussi envie d'ouvrir l'espace et de me dire peut-être qu'on est en train de se préparer à d'autres formes de connexion, télépathie ou... parce que finalement, l'information qu'on a à travers nos téléphones, peut-être que bientôt, d'âme à âme ou de cerveau à cerveau, on pourra aussi échanger comme ça.
C'est ça. Tu parles aussi beaucoup, on en a parlé un peu à l'instant, de médecine de l'amour. Mm. C'est important ça pour toi?
J'ai envie de dire médecine de l'amour de soi, d'abord. Pour pas être dans une injonction d'amour inconditionnel de tout. Et oui, bien sûr qu'à un endroit, dans une dimension, dans un état de conscience, il y a cet amour universel dans lequel nous baignons. Mais peut-être la première chose, l'urgence pour moi, c'est que chaque être humain puisse se reconnecter à l'amour de soi, de toutes les parties de soi.
Là, d'ailleurs, tu nous proposes des choses très pratiques, comme par exemple à créer une playlist de la médecine de l'amour, explorer des musiques qui vibrent sur 528 Hertz, ou que ça peut être 432 Hertz aussi. Mm. Qu'est-ce que ça nous fait, ça? Il y a des études qui ont montré que c'est des fréquences qui rentrent en résonance avec notre cœur, c'est ça?
Exactement, c'est des fréquences qui amplifieraient le champ naturel, le champ énergétique naturel du cœur.
Et donc ça, tu conseilles de les écouter régulièrement?
Oui. J'ai envie de dire, sans, il n'y a pas de risque de surdosage.
Parfait, on peut se lâcher alors. Tu nous donneras peut-être 2-3 idées, de yes. choses que tu aimes bien, qu'on mettra sur les réseaux. Comment les animaux aussi, la nature, peuvent être cette source d'inspiration pour nous?
Là encore, pour moi, ça passe par les neurones miroirs.
Oui.
Et se rappelle que la nature est en nous. Donc forcément, quand on est dans la nature, quand on est connecté aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, au monde micellaire aussi. Je commence vraiment à m'intéresser de plus en plus à ce règne qui refait surface.
Bah, tu peux nous dire ce que c'est le monde micellaire?
C'est le monde des champignons.
Oui. Tous les mycéliums.
Tous les mycéliums, et on voit à quel point les arbres sont en communion permanente avec tout ce système. C'est Avatar aussi, ouais. Le film. Il n'y a pas besoin de... Finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'explications? Quand vous allez dans la nature, en forêt, que vous vous baladez, comment vous vous sentez?
C'est ça la question qu'on a besoin de se poser, effectivement. Alors, évidemment, il y a la santé des femmes, qui est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Comment se reconnecter à notre puissance féminine? Et ça, tu as des groupes aussi pour ça, dans l'intime et dans le monde, à cette fameuse médecine de l'utérus. Qu'est-ce que c'est?
Mais là encore, j'en parle dans le livre.
Qui n'est pas de la gynécologie, hein.
Ou ce serait de la gynécologie intégrative, j'ai envie de dire.
4.0, 5.0.
Je pose l'intention que les gynécologues du futur s'approprient
cette
dimension.
Oui, il y a de plus en plus de femmes en plus qui sont gynécologues. Oui.
Mais la médecine de l'utérus, en fait, c'est... Je me suis rendu compte que j'avais un utérus. L'organe, je pense, comme beaucoup de femmes, la première fois que j'ai eu mes règles et que j'ai eu mal au ventre et que je me suis dit, oh là là, moi aussi, ça y est, je rentre dans le... Dans le clan des femmes qui vont devoir, une fois par mois, ralentir, se cacher même.
Voire même souffrir.
Ouais. Et la première fois que j'ai tenu un utérus dans mes mains, c'était au bloc opératoire, j'étais externe. Et il s'est passé quelque chose d'assez étrange, un peu un état de transe en fait. Mm. Je tenais l'utérus d'une jeune femme à qui on était en train d'enlever l'utérus parce qu'elle avait un gros fibrome. Et... Je sais pas, il y a eu une connexion entre l'utérus et mon cœur. Ça a été assez particulier. Et j'en mets le contexte, c'était il y a 25 ans et j'étais pas encore dans cette ouverture, on va dire, énergétique et spirituelle. Donc ça m'a un peu perturbée. D'autant plus que l'infirmière qui était à côté de moi me l'a pris d'un seul coup, quand on a coupé les artères, pour aller le jeter.
Enfin, dis donc, c'est... Ouais.
Pas pour le jeter, pour aller faire une analyse anatomique, mais ensuite, je savais qu'il allait finir incinéré dans la poubelle de l'hôpital. Et en fait, ça a été...
Ouais. Elle n'allait plus avoir d'utérus, quoi, jeune femme.
Ouais. Et en plus, le chirurgien lui avait dit, ça va vous enlever justement ces douleurs mensuelles que vous avez. Il se présentait comme sauveur.
Ouais, et ça lui a retiré la possibilité de donner vie, en fait, ce jour-là.
Ouais. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait quasiment aucun accompagnement autour de ça.
C'est carrément plus que dommage, mais c'est grave.
C'est ça. Et
c'est
là...
C'est choquant.
En commençant à m'intéresser au cercle de femmes et à toute cette dimension autour de l'utérus énergétique, symbolique, créateur, je me suis rendu compte qu'on faisait une grosse erreur de voir le système reproducteur, que ce soit de la femme ou de l'homme, comme juste des organes physiques. Et que c'est beaucoup plus que ça. Et c'est là où moi j'ai commencé un gros chemin de réappropriation de mon propre utérus, à travers les cercles de femmes et différentes pratiques énergétiques, pour m'autoriser à redescendre, parce que c'est aussi un espace de grand trauma en tant que femme. Parce que les femmes de nos lignées, en général, n'ont pas vécu leur féminin de manière libre. Puis je pense que c'est un espace porteur d'un gros trauma collectif aussi. Mmh. En tant que femme, on est plus sensible à tout ce que les femmes du passé ont vécu. Et que le fait d'en prendre conscience et de se dire que tout ce qui se manifeste à travers cet espace-là, même si c'est douloureux, même si c'est de la souffrance, de le conscientiser et d'y mettre cette fameuse médecine de l'amour, de se voir comme une femme médecine et d'intégrer ce champ de guérison, je pense qu'on casse une boucle karmique et qu'on évite que les générations futures prennent tous ces traumas.
On peut imaginer que cette jeune femme, peut-être maintenant qui est devenue plus si jeune que ça, nous écoute et reconnaisse son histoire, et que tu as en fait repris le flambeau de son histoire d'une certaine manière quand même.
En tout cas, moi je pense que dans l'invisible, que ce soit cette femme grâce à qui j'ai eu cette prise de conscience, ou toutes les autres femmes qui ont vécu ce type d'événement, ça va aller toucher un endroit où, j'espère, ça va ouvrir un espace de connexion et d'amour.
Alors tu dis dans cette veine-là, dans cette suite-là, que tu découvres en tant que médecin, hein, je rappelle, l'anatomie complète du clitoris à 38 ans. Alors, dit comme ça, ça fait un peu bizarre. Comment habiter notre corps sensoriellement, ça mène à cette question, mais quand même explique-nous ce détour.
C'était il n'y a pas très longtemps en fait.
Oui, c'est vrai, je dis ça 38 ans, mais c'est peut-être ton âge en fait, c'était hier, presque.
Oui, mais c'est quelque chose de fou en fait, de se dire que même en tant que médecin, on n'a pas eu accès à cette connaissance, même en tant que femme en fait. C'est une partie du corps où si tu regardes dans...
Là tu parles de l'anatomie complète. Hein,
exactement, ouais. Que dans les livres de biologie à l'école, ou même après en médecine, ou même dans les musées d'anatomie où on voit toutes sortes de choses, le clitoris de la femme, il a été défini comme un organe du plaisir et il a été mis de côté. Et on n'en parle nulle part, ni dans les guides diagnostiques, ni les guides thérapeutiques. C'est comme s'il n'existait pas. Donc pour moi, dans notre inconscient individuel et collectif, c'est comme s'il y avait un trou noir. Et pour moi, ça explique pourquoi est-ce qu'on est autant de femmes à être déconnectées de cet espace de créativité, de cet espace de jouissance.
De sensorialité.
Exactement. Et de reliance à la terre aussi, parce que le clitoris, c'est le premier et le deuxième chakra. Et c'est ce qui nous permet de nous ancrer à cette dimension sauvage, reliée à la terre, à la nature.
Ça permet aussi de nous aider à lever ce complexe de la sorcière en nous. Qu'est-ce que c'est ?
Ah, ça, c'est tout un pan de l'histoire aussi que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, grâce à Mona Chollet notamment, ou Odile Chabriac, où je pense qu'on est nombreuses à avoir cette peur d'être brûlée.
Mona Chollet, hein, qui est journaliste du Monde, qui a écrit sur les sorcières genevoises. Enfin, elle est genevoise, mais elle a écrit notamment...
La puissance invaincue des femmes.
Ouais. Les sorcières.
Ouais. Et... Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai eu des problèmes de brûlure d'estomac. Alors, bien sûr, d'un point de vue gastro-entérologique, mon médecin a fait tout le diagnostic et les traitements qu'il fallait. Mais derrière, pour moi, il y a énergétiquement et symboliquement, il y avait autre chose. Et on est beaucoup de femmes à souffrir de brûlure, d'inflammation, de peu importe, en lien avec l'élément feu. Et dès qu'on ouvre cet espace de « mais t'as peur d'être brûlée ?» T'as peur d'exprimer ta vérité, de manifester tes dons, tes talents. C'est bizarre, mais j'ai envie de dire quasiment 100% des femmes que je questionne me disent oui. Je fais des rêves, ou alors oui, j'ai cette peur, même si je ne sais pas l'expliquer. Et pour moi, c'est le complexe de la sorcière qu'Isabelle Sorante décrit bien aussi, donc une autre journaliste qui a écrit un livre dessus. Et je pense qu'on est porteuse de ces mémoires, de toutes ces sorcières qui ont été brûlées. Et c'est pas juste 1000, 2000, c'est des milliers et des milliers de femmes un peu partout dans le monde qui ont connu l'Inquisition et qui, par leur capacité à se relier à l'intelligence de la nature, ont été brûlées.
Oui, c'est ça. Bah, je pense qu'on porte des mémoires effectivement très puissantes sur le sujet, qu'il est temps aussi de décoloniser là encore.
Exactement.
Hein. Ouais, on revient à ce que tu disais au début. Alors... Tu parles dans ton livre d'une grille de lecture qui est vraiment intéressante du modèle, on dit cinéphine, qui a été décrit par Dave Snowden, qui est chercheur en sciences sur la complexité, et qui peut nous aider avec ces quatre manières de percevoir la réalité. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce calque comme ça un peu en tête.
Oui, J'ai découvert grâce à un ami qu'on a en commun, Olivier Morel.
Ah, notre cher Olivier Morel, qui anime les cercles de métamorphose. Il y a un très grand cercle qui va avoir lieu bientôt, alors tenez-vous informés. Là. Petite parenthèse.
Et en fait, ouais, quand j'ai découvert grâce à lui ce modèle, ça, c'est comme si plein de sujets de recherche que j'avais rentraient dans des... Enfin, faisaient sens et rentraient dans les cases, en fait, quelque part. Et beaucoup de choses que j'avais remarquées, moi, dans le monde de la science... de la santé, de la médecine et de l'entrepreneuriat aussi, on a l'impression de s'opposer avec certaines personnes, ben, ça m'a fait, mais oui, en fait, on n'est pas dans le même mode de raisonnement et de pensée, c'est pour ça qu'on ne s'entend pas, mais ça ne sert à rien d'essayer de convaincre l'autre. Parce qu'en fait, dans ce modèle, Dave Snowden décrit que notre cerveau est capable de penser en mode simple. C'est-à-dire qu'il y a un fait qui va donner une conséquence. Je donne une recette de gâteau au chocolat, normalement, si tu l'appliques, tu vas faire un gâteau.
J'ai le résultat, quoi.
Voilà, et tout le monde va avoir le même résultat, plus ou moins. Mais notre cerveau, il peut aussi réfléchir en mode compliqué. Il y a un fait qui va donner une conséquence, mais si tu rajoutes un autre ingrédient à cette conséquence, ça va donner une variante de la conséquence, et je te laisse le dessin se dessiner. On va rentrer dans un processus compliqué qui va demander de hiérarchiser, d'organiser, de créer un système de rétro-contrôle. Et quelque part, c'est ça qui s'est dessiné avec le système patriarcal, c'est qu'il y a une pyramide qui se dessine avec des experts en haut qui ont une vue globale, mais qui sont déconnectés du terrain, puisqu'ils ne sont pas à la base. Et à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que Snowden décrit que notre système nerveux est aussi capable de fonctionner en mode associatif. Et là, ça nous amène au modèle complexe, où là, c'est plus... une hiérarchie qui se crée, c'est une interdépendance entre tous les points. Et on ne sait plus si c'est la cause qui devient la conséquence ou la conséquence qui crée la cause. En fait, il y a une interaction dans les deux sens. Et là, on rentre un peu dans l'avènement d'Internet, puisque c'est Internet qui a permis une démocratisation, entre guillemets, de l'information qui circule partout. Et ça rejoint la théorie des systèmes, en fait, ce modèle complexe, où on est tous interreliés. Ça rejoint aussi ce qu'on avait dit tout à l'heure, la biodiversité des intelligences. C'est qu'on a besoin du tout pour pouvoir avancer ensemble.
Oui, ça me fait aussi penser à l'expérience du chat de Schrödinger, c'est ça?
Oui.
Oui, c'est ça. Dans le genre de théorie complexe où, en fait, on tourne en rond sur les réponses, effectivement, mais tellement il y a d'interdépendance.
Mais en tout cas, ce qu'on sait, pour rejoindre un peu la lecture quantique, du coup, qui s'applique très bien dans le complexe, il se passe quelque chose au fin fond de l'Amazonie. Un battement d'ailes de papillon, ça peut avoir une répercussion de l'autre côté du monde, parce qu'en fait, tout est relié. Et ça nous amène au quatrième état, que je trouve passionnant, parce qu'on est en plein dedans, c'est le chaos.
Oui.
Le chaos qui, en général, on n'aime pas y aller, parce que c'est perturbant, ça réveille des souffrances, c'est confus. Mais en même temps, dans cette lecture-là, notre cerveau, notre système nerveux est capable de s'adapter, même dans le chaos. Et au contraire, on a besoin de cet état-là de chaos, où il n'y a plus de lien extérieur, en tout cas de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a plus de lien entre cause et conséquence, que tout est, on va dire, un peu comme dans un trou noir. Mais en même temps, c'est un processus très intéressant, parce que c'est une phase de reset, où justement, on peut décoloniser nos pensées, nos croyances. Ce n'est pas du tout agréable, mais ça nous permet de... nous libérer, en fait.
C'est le terreau fertile du nouveau, en fait.
Exactement. Et pour moi, c'est intéressant de voir le chaos plutôt que comme une entité qui fait peur. Pour moi, c'est cet espace qui va nous permettre de créer du nouveau, c'est réellement, ça. Sans antécédents karmiques, sans bagages karmiques. Parce que le risque, après, c'est de reproduire les mêmes choses en ayant l'impression d'avoir créé quelque chose de nouveau.
D'ailleurs, tu en as fait le titre de ton podcast, et en reprenant Nietzsche qui dit « il faut porter en soi du chaos pour accoucher d'une étoile qui danse ». Alors, la formule change selon les citations, mais voilà, quelque chose dans ce goût-là.
Exactement, danse avec le chaos.
C'est ça. Alors, parlons peut-être, on arrive à la fin de ce podcast aussi, de cette médecine de l'aigle qui nous permet d'y voir clair dans le chaos, justement, et de prendre de la hauteur.
Oui, là, c'est les sagesses amérindiennes qui m'ont beaucoup inspirée avec les animaux. Et comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, pendant ces dernières années, souvent j'ai été prise dans des gros questionnements, des grosses remises en question aussi, de qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde, comment est-ce que je peux contribuer, alors que tout devient de plus en plus complexe, j'ai envie de dire, dans le changement de paradigme qu'on est en train de vivre.
Les fameuses rencontres avec les dragons.
Exactement.
Dont tu parlais au début, ouais.
Et l'aigle, en fait, en se connectant à son énergie, à sa vibration, je vous invite à imaginer un aigle. Imaginez que vous êtes un aigle. Même imaginez vos ailes, qui ne bougent pas tellement que ça, mais qui vous permettent de garder le cap et qui vous permettent de poser votre regard sur en bas, sur ce qui se passe. Et cette hauteur, je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Pour ne pas être pris dans les vagues émotionnelles, même si on a besoin de les traverser, mais d'avoir cette capacité aussi à se connecter à cette médecine de l'aigle, ça nous permet de ne pas être enseveli complètement et de voir, peut-être, et de commencer à sentir l'espace avec les cadeaux qui vont arriver derrière ce chaos.
C'est vraiment à la fois être dans cette médecine aussi des petits rituels. Hein. Les Anglais disent la première chose à faire, c'est une bonne tasse de thé. Mm. Donc revenir à des choses simples, et effectivement, où on est plus au sol, entre guillemets. Mm. Petit rituel. Et puis savoir décoller de nos personnages, de nos masques et du contexte aussi. C'est pas facile de faire ces mouvements d'aller-retour.
Mais en le faisant à plusieurs, ça aide.
Ouais, revenir au groupe, au collectif. Ouais. Alors justement, toi, tu travailles aussi beaucoup sur le collectif, puisque tu participes à une expérimentation de permaculturelle aussi au Portugal.
Exact.
Et c'est intéressant de vivre ça à une autre échelle.
Ben, je pense que, tu vois, quand on parle de santé, d'alignement, de guérison, on ne peut pas juste être en bonne santé seul. Ça n'a aucun sens, en fait. Pour moi, la santé du collectif, la santé de la planète, est complètement reliée à la santé individuelle. Et tant qu'on n'aura pas intégré ça, il manque un maillon de la chaîne.
Oui. Pour finir sur une note et des voies d'espérance, comment transformer justement ces obstacles en opportunités pour grandir ?
C'est la médecine de Ganesh.
C'est la médecine de Ganesh.
Le dieu à tête d'éléphant.
Oui.
Je pense que c'est moi ce qui m'aide, c'est toujours de revenir au corps. Quand il y a une contrariété, une souffrance, quelque chose que je n'attendais pas qui arrive, qui vient casser mes plans, ou... c'est de revenir aux seules choses qui restent, qui sont présentes, qui sont réelles, j'ai envie de dire. C'est sentir mon corps, sentir ma respiration, revenir dans l'espace de sécurité à l'intérieur de moi, et de me dire, déjà de préparer mon mental, de dire « t'inquiète pas, il y aura toujours des solutions ». Et il y a forcément des cadeaux derrière. Même si pour l'instant, tu ne les vois pas, fais confiance. Et là, c'est la foi qui m'a vraiment aidée à connecter à cet espace-là. Et ensuite, c'est d'aller chercher comment je peux me mettre en mouvement, en douceur, en respectant mon rythme, et en allant justement changer mes patterns, mes pensées automatiques, qui pourraient dire non, mais ça ne va pas marcher, ou n'importe quelle pensée limitante qui va m'entretenir dans le problème. Je vais essayer de l'accueillir et de la transformer et l'ouvrir sous forme de questions en disant « mais et si ça m'ouvrait un nouvel espace, cette contrainte, cette contrariété, comment ce serait ?» Et de jouer avec.
Ouais, c'est une forme de voix de la sagesse quand même. Hein. Merci en tout cas infiniment Nathalie Guita Babourage de nous reconnecter à cette puissance de guérison, à notre sagesse intérieure. Je rappelle le nom de ton ouvrage, Devenir sa propre médecine, aux éditions Erol. Donc j'ai participé à la publication de ce livre, je le dis aussi pour nos auditrices et nos auditeurs, mais je pense qu'ils l'auront bien compris, qui est préfacé par notre chère Odile Chabriac. Et pour ceux et celles qui aimeraient te suivre, rendez-vous sur le site la Tribe Empowering School. Et pour retrouver voilà, toutes tes activités, tes cercles, etc., tes différentes publications. Merci infiniment Nathalie.
Merci Anne.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques. Un mercredi sur deux, j'y fais aussi un tirage de mon oracle que je commande spécialement avec un mini podcast audio exclusif. Un doux moment d'introspection, toujours accompagné d'un rituel. Alors pour rejoindre cette aventure et vous abonner gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur notre site métamorphosepodcast.com. Vous y trouverez dès la page d'accueil un encart d'inscription. Alors à très vite dans votre boîte mail, les amis.